Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Une page du livre des Psaumes et nous allons prendre en considération une parole de David. Et nous allons tout simplement partager une petite étude, c'est une réflexion, ce que nous dit David, le roi David, une étude sur le comportemental, nous pourrions dire, les réactions des hommes, les nôtres également aujourd'hui, parce que ça vaut pour tous les temps, et ce que nous pourrions appeler, les réactions que nous pouvons avoir devant certaines situations qui sont éprouvantes, qui sont difficiles, c'est cette tentation que nous pouvons avoir de fuir les problèmes, les difficultés, de ne pas vouloir affronter en face certaines réalités. Alors, dans le psaume 55 et au verset 7 à 9, j'ai intitulé, et vous allez le retrouver dans cette lecture, j'ai intitulé notre réflexion ce soir « Si j'avais des ailes ». Qu'est-ce que nous pourrions faire avec des ailes, hein? Avec les ailes de la foi, par exemple. Alors, nous chanterions. Mais on va aller un petit peu plus dans cette étude. Et je vous ai dit donc, psaume 55, versets 7 à 9. Alors, c'est David. « Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais. » Et je trouverai le repos. Voici, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert. Je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent, impétueux que la tempête. Alors, il y a toute une histoire derrière tout cela. Et de vous dire tout de suite que ces paroles, c'est ni plus ni moins une complainte. Oui, un désir, un espoir. Une espérance caressée par un homme, en l'occurrence David, et qui se sent frustré ou voire même opprimé par une situation, et là où il se trouve, il aimerait être ailleurs, c'est-à-dire vivre autre chose que ce que lui inflige la vie dans ces circonstances, et il le dit, si j'avais les ailes de la colombe. Ce qui nous laisse imaginer beaucoup de choses et ce que nous allons traduire par des mots d'ici quelques instants. Alors, cette complainte de David, c'est véritablement le résultat d'une situation qui nous est rapportée dans son histoire, l'histoire de sa vie. Parce que David, en parlant ainsi, transcrit ou traduit un événement de son existence où il était trahi par un ami. Voilà. Et je pense que là où il y a eu beaucoup d'affection, beaucoup d'estime, et lorsque nous subissons ce revers, c'est quelque chose de très difficile. Mais ce n'est pas seulement un ami qui l'a traduit, c'est un frère. Et c'est encore beaucoup plus douloureux. Et ce n'est pas seulement un ami, ce n'est pas seulement un frère, mais c'est son propre fils, dont nous connaissons l'histoire dans le livre de Samuel, qui s'appelle Absalom. Qui s'est retourné contre son père, donc le roi David, pour prendre sa place, et qui d'une manière tellement honteuse et traite, a essayé de renverser tout simplement son propre père. Alors on connaît l'histoire d'Absalom, on sait comment tout cela s'est terminé, on sait le chagrin immense que David a connu lorsque son fils a été tué. Parce que la fin de l'histoire, c'est ça, hein. Absalom, finalement, s'est pris la tête dans un arbre, en croisillon, comme ça. Et puis, un soldat de David est venu la transpercer. C'est quelque chose d'affreux. Ce sont des histoires épouvantables. Et nous savons que David a eu vraiment beaucoup de mal. Il a pleuré très longtemps de son fils. Et pourtant, c'est ce même fils qui l'avait trahi, qui l'avait vendu. Et tout ça, n'est-ce pas, peut-être pas une anticipation de ce que l'Évangile nous dit sur les trahisons que Jésus a connues à travers ses amis, à travers tous ceux qui l'environnaient, et peut-être un des plus proches, c'est-à-dire Judas. Alors, on va avoir l'explication, si vous voulez, on va reprendre le texte, Et on va relire ce psaume, une partie naturellement, à partir du verset 1er. Et il est dit ceci, on va mieux comprendre. Cantique de David, ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas ma supplication. Écoute-moi et réponds-moi. J'erre ça et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et ils me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Et c'est là où David va poursuivre. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'enfuirais et je partirais. Alors nous allons porter notre attention et nous allons analyser le sujet. C'est-à-dire que nous connaissons, que David a connu, que bien des hommes ont connu, je crois que nous ne pouvons pas passer au travers, dans l'expérience de l'existence, ce malaise que j'appellerais, que je qualifierais de récurrent, du besoin de fuir devant des situations qui sont inimaginables, des situations insurmontables, à nos yeux naturellement, selon ce que nous pouvons éprouver sentimentalement, peut-être physiquement, et devant la vue d'un ennemi ou du mal qui nous submerge. David, à travers ces quelques mots, dit simplement son désir d'avoir des ailes pour échapper aux limitations et aux contingences, tout simplement terrestres. Un homme est un homme. Un homme, pour fuir, il n'a que ses jambes. Il n'a peut-être que son imagination aussi, ses pensées, quand elles ne sont pas trop agitées, quand elles ne sont pas trop affolées. Mais il s'imagine pouvoir être comme la colombe, parce qu'elle est insaisissable, la colombe, elle n'est pas comme nous. Si elle a la faculté de marcher sur la terre, elle a aussi des ailes pour, finalement, eh bien, aller vers le ciel et de disparaître, finalement, eh bien, du chasseur ou de celui qui voudrait tout simplement la captiver. Alors, nous voyons qu'il donne bien les mots et il sent que, quelque part, il est comme en prison. Oui. Et vous savez, tous les prisonniers ont pensé et pensent, et certainement passent leurs jours de captivité en pensant à la fuite. Hein ? Leur imagination est tournée continuellement. Hein ? Mais dans les prisons, il y a des portes de fer, il y a des barreaux, il y a là toutes sortes de systèmes qui font, et surtout les prisons modernes, où de plus en plus, quoique quelquefois, providentiellement, il peut y avoir un hélicoptère. Mais maintenant, ça y est, c'est fini. On ne peut plus s'échapper d'une prison parce qu'il y a des filins, hein, au-dessus des prisons, et puis toutes sortes de choses semblables. Alors, il s'exprime ainsi, et dans cette tourmente, dans cette épreuve, dans cette persécution qu'il vit, David, il est à la recherche du repos et de la paix. Ouais. Si on pouvait, quelques instants, avoir la paix. Et pour obtenir cette paix ou ce repos, alors on peut partir par la pensée en disant, bien, si ceci, si cela, et à ce moment-là, eh bien, il y a une grande espérance qui se fait dans notre cœur lorsqu'on est enserré, lorsqu'on est acculé dans une situation où on ne peut plus rien faire. Alors à ce moment-là, eh bien, il y a quelque chose, un bien ou des biens précieux tels que la paix et le repos. Et on se dit, bien, si je pouvais aller à travers le ciel, j'échapperais à tous mes ennemis, à tous ces hommes qui me persécutent. C'était simplement la pensée de David. Fuir est bien loin, le plus loin possible, le plus éloigné possible, loin d'eux, et de trouver ainsi la tranquillité dans le désert, puisque voici, je fuirai bien loin, dit-il, j'irai séjourner au désert. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Là, dans le désert, là, dans la solitude, où il n'y a personne pour nous nuire et également pour faire du mal. Et on peut deviner que David, dans cette conjoncture dans laquelle il se trouve, eh bien, certainement, avait besoin de se retrouver hors de ce conflit, hors de cette situation, et il aspirait profondément à être dans un lieu sûr, et pour lui, et c'est tout à fait géographiquement compréhensible lorsqu'on est en Palestine, eh bien, dans le désert, là où personne ne pourrait l'importuner, le laisser tranquille. Voilà pour l'histoire de David. Et on y reviendra d'ici quelques instants. À l'origine de la tentation ou de ce désir impérieux de fuir des situations, eh bien, il y a principalement la peur. Oui, ça fait partie justement des conditions ou des mobiles qui poussent un homme à fuir. La peur d'abord, la crainte de souffrir aussi. Ce n'est pas quelque chose qui nous est habituel, parce qu'on ne s'habituera jamais finalement à la souffrance ou à la tristesse ou également à la peine. C'est parfois aussi la culpabilité. On l'a dans le cas d'Adam, par exemple, hein, culpabilisé là, lorsque la révélation lui vient que Dieu l'appelle, et il se cache, il fuit, donc en quelque sorte, il y en a bien d'autres comme ça. La culpabilité, parfois, et la crainte d'être découvert en faute. Ça, c'est quelque chose qui peut terroriser également quelqu'un, de dire, eh bien voilà, la conscience qui n'est pas tranquille, et de dire, eh bien, on se cache. Et puis, mille et une autres raisons hein, qui sont à l'origine eh bien, de cette tentation compulsive, finalement, de partir. Il y a un synonyme à la fuite, c'est l'évasion. Oui, l'évasion est synonyme de fuite. Et s'évader évoque une situation d'enfermement. Alors on a parlé de la prison, on a parlé de la captivité. C'est une réalité. C'est une privation de liberté. Et naturellement, David, lui, il s'exprimait en disant « Mais j'irai dans le désert, là où il y a de la place. Là où finalement, eh bien, Dieu va me mettre au large, en quelque sorte. » Privation de liberté, tenter parfois aussi de s'extraire, eh bien là, de conditions dangereuses, lorsque nous sommes menacés, de sortir ou de s'enfuir d'une existence malheureuse, d'une existence médiocre et sans perspective. Et c'est peut-être un fait de notre société, comme toujours, mais un fait de notre société aujourd'hui, où les gens sont quelquefois assoupirés, à désirer ardemment, eh bien, en finir peut-être avec la routine, avec le train-train de la vie, qui finalement, eh bien, les laisse dans une situation où il n'y a plus tellement d'intérêt, il n'y a plus tellement de perspectives, hein, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Les fuites hein, peuvent être physiques, lorsque nous prenons nos jambes à notre cou, comme nous disons, hein, prendre ses jambes à son cou et courir. Elles peuvent être morales, elles peuvent être psychiques, et elles peuvent être surtout en pensée quand on n'a pas la possibilité physiquement de fuir. Et ça fait partie justement eh bien, d'une des capacités que l'homme a, de s'enfermer en lui-même et de se replier, c'est une forme de recroquevillement qui est extrêmement négatif, mais qui quelque part eh bien, nous projette dans un autre monde, nous projette dans un autre avenir, nous projette dans une autre situation. Et c'est pourquoi le terme que David emploie est tout à fait justifié, « si j'avais les ailes de la colombe ». Et ça se passe en pensée, naturellement. Aller ailleurs. En pensant qu'ailleurs, ce sera mieux qu'ici. C'est peut-être également eh bien, de changer de lieu en disant, eh bien voilà, si je vais dans une autre contrée, si je vais au désert, et quand on est au désert, on veut revenir en ville. Hein, et on n'est jamais bien là où on est, parce que le problème n'est pas tant de ce que nous pouvons projeter, de ce que nous pouvons imaginer, de ce que nous pouvons avoir en tête, mais de régler un autre problème dont nous allons eh bien, en parler d'ici quelques instants. Changer de lieu, là où l'on espère plus souffrir, là où on peut rêver en quelque sorte, ou imaginer partir dans une aventure nouvelle d'un meilleur présent, sinon l'espoir d'un avenir meilleur. Et nous sommes en tant qu'humains dans cette capacité, lorsque nous sommes réduits à une situation d'extrémité, de danger, où il y a peut-être au fond de notre cœur quelque chose que nous ne voudrions pas dévoiler, eh bien de nous renfermer en quelque sorte en nous-mêmes, et puis de nous porter à penser à autre chose. Ça peut aider, hein, naturellement. Mais la véritable délivrance n'est pas là. Ça peut aider à vivre, mais ce n'est que temporaire, parce qu'il faut trouver d'autres solutions. Le monde est plein d'imagination. Vous savez, si nous questionnions les gens autour de nous, dans les situations diverses et ô combien nombreuses que notre monde connaît ou est exposé, on entendrait beaucoup de choses. Les gens sont obligés de rester là, parce qu'il n'y a pas le choix. Parce que c'est ici, c'est pas autrement. Mais ils s'évadent à travers toutes sortes de cogitations, nous pourrions dire, en pensant que eh bien, tout cela, eh bien, c'est une maigre consolation, mais allez, c'est quand même une consolation. L'imagination, d'un autre part, ou autrement, fait échapper beaucoup de gens de leur quotidien négatif, parfois un quotidien humiliant, violent, intolérable, voire insupportable. C'est-à-dire que les gens sont profondément malheureux. Et j'ai pris le cas de David, parce que c'est certainement, en quelque sorte, un exemple de ces souffrances qui sont là dans notre monde, qui appartiennent à notre vie d'homme, où, combien nous aimerions fuir une situation. Lorsque nous sommes malades, gravement ou autrement, nous aimerions peut-être que les choses soient différentes. Et combien, si c'était possible, nous pourrions quitter cette situation, mais nous sommes enfermés en cela. Et dans d'autres situations, comme je pourrais dire un chômeur qui est là en train de tourner toute la journée et depuis un certain temps dans sa maison, il préférerait certainement être ailleurs. Et puis dans toutes sortes d'autres situations semblables. Il y a naturellement le projet et quelquefois sa réalisation, parce que quand on veut s'évader, certains réussissent à s'évader. Mais ça nous mène à quoi? À défaut, la fuite s'est matérialisée dans notre monde moderne par des promesses illusoires, de paradis artificiels, où les hommes se sont créés un autre monde. Ils sont dans cette situation, mais ils se sont créés un autre monde. À eux, bien à eux, secret en quelque sorte. Et cet autre monde, c'est une forme de soupape, d'espoir trompeur, où on se perd dans l'oubli des choses qui nous font souffrir. Et chacun a une capacité d'imaginer ou de rêver, différente des uns des autres. Il y a des gens qui sont véritablement, très imaginatifs dans ce domaine. Et c'est une forme, finalement, d'oublier la réalité du présent, du quotidien, dont le moyen offert pour y parvenir est surprenant, mais l'ivresse en tout genre, à travers toutes sortes de substances, à travers l'alcool, à travers la drogue, à travers toutes sortes d'ivresse et de frénésie qui, quelque part, nous donne encore la sensation que nous sommes libres et que nous pouvons nous envoler vers, je l'ai dit tout à l'heure, certains paradis que nous avons qualifiés d'artificiels. Mais ne serait-ce pas, quelque part, cette nostalgie du véritable paradis, mais ce paradis perdu. Alors on peut le retrouver, ce paradis, et on va en dire quelques mots. Dans sa phase ultime et tragique, et nous savons que il y a à peu près 13 à 14 000 personnes par an qui franchissent le pas, c'est la fuite dans le suicide, où la vie devient impossible à supporter, où la vie devient quelque chose de terrible. Et c'est souvent pour se soustraire de l'emprise d'une vie qui n'a plus ni sens, ni raison d'être. Quand on en arrive là, c'est terrible. C'est fou, hein ? Alors, il y en a d'autres qui vont se précipiter vers toutes sortes de moyens d'ivresse. Et ils vont vivre, ils vont brûler la vie, on peut dire, à travers toutes sortes de choses qu'ils vont se donner ou que le monde leur propose. Mais de toute façon, à un moment donné, il faudra revenir au point de départ. Quoi qu'il en soit, et quand on revient au point de départ, on est plus dégradé que quand on est parti. Parce qu'il y a eu des effets, finalement, de ces ivresses. Et puis il y en a d'autres qui ont résolu, ce serait le contraire. Ils s'enfoncent petit à petit dans le marécage de la souffrance, de leur chagrin, jusqu'à ne plus vouloir, finalement, continuer à exister, plus à vivre, tout simplement. Il y a un texte, et je reviens à David, qui est évocateur, qui est véritablement significatif, et on va le lire ensemble, c'est dans 1 Samuel chapitre 23. Et nous allons, et je ferai quelques commentaires sur ce texte, parce qu'il est quand même assez particulier, et il est intéressant de le relier avec ce que nous disons sur ce désir de fuir. Oui, David était un homme courageux, c'était un homme vaillant, c'était un roi, c'était un homme qui était capable d'affronter beaucoup de situations, mais il a passé des moments dans certaines phases de son existence où David était complètement découragé et démoralisé. Et nous en avons un dans ce texte, donc au verset 25, 1 Samuel 23, 25 à 28, je le relis et je vous expliquerai un peu le contexte. Le roi Saül, c'est-à-dire le roi d'Israël, il nous est dit que Saül partit avec ses gens, ses soldats, à la recherche de David. Il recherchait David pour le tuer. Le roi d'Israël recherchait son gendre qui s'appelait David pour le mettre à mort parce que le roi Saül était jaloux de la popularité et du succès, tout simplement, de David. Et on est venu en informer David qui descendit le rocher et resta dans le désert de Mahon, dans le désert de Mahon. Saül, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Mahon. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, « Hâte-toi de venir, car les Philistins, les ennemis d'Israël, ont fait invasion dans le pays. » Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi, et c'est intéressant ce que nous allons lire, c'est pourquoi l'on appela ce lieu Shéla Amna Klekot. C'est difficile à dire. Et vous savez ce que ça veut dire? Ah, peut-être que vous l'avez dans vos Bibles, en aparté, mais je vais vous le dire d'ici quelques instants. On a la situation d'un homme, donc David, qui est poursuivi par son principal adversaire qui veut le tuer. Et nous voyons que David, il nous l'a dit, il fuyait précipitamment. Il y a des fuites raisonnées, il y a des fuites qui peuvent se faire dans le calme, mais là c'était la précipitation, c'est du sauf qui peut. Il fuyait précipitamment pour échapper à son poursuivant. Et les soldats du roi étaient en train d'entourer David et ils voulaient s'emparer finalement de David. Alors, je le relis. C'est là Amna Klekot. Vous prendrez des leçons d'hébreu et vous viendrez me l'enseigner. Hein ? Alors, il y a un sens à tout ça. Vous savez ce que veut dire le mot que je viens de prononcer et que je ne reprononcerai pas? Ça veut dire rocher de l'évasion, ou si vous voulez en d'autres termes, rocher de la fuite. Ouais. Alors, c'est vrai que ça se passe dans un moment de trouble, où il y a un danger de mort pour David. Et nous apprenons que dans ce texte, et c'est Dieu, et c'est là que nous allons voir comment Dieu délivre, et comment il est capable de nous rassurer. Lorsque la peur, lorsque la terreur, lorsque l'épouvante nous saisit, comme c'était le cas de David, là dans le désert de Mahon, poursuivi par son ennemi, et à un moment donné, alors que le roi était prêt à mettre la main sur David, il y a un messager qui est venu de Jérusalem, probablement, pour dire tout simplement au roi, les ennemis sont rentrés, dans le pays d'Israël, viens maintenant, nous allons les combattre. Ce qui faisait que, à ce moment-là, le roi Saül, au lieu de continuer à chercher David, eh bien, il était se battre contre les ennemis. Comme quoi Dieu est capable de détourner finalement nos terreurs. Comme quoi il est capable de nous délivrer in extremis. Comme quoi, dans toutes sortes de situations, lorsque nous perdons la raison, lorsque nous sommes dans l'affolement, lorsque nous pensons que nous sommes perdus, Dieu du haut du ciel est capable de changer les choses. Et ce rocher, là où ça a été une victoire sans combattre, où il y a une délivrance, finalement, qui était une délivrance d'en haut, pas d'en bas, à travers cette nouvelle, ou qui a détourné la vengeance du roi Saül, et à cet endroit-là, David a donné un nom, le rocher de l'évasion. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé tout simplement libre. Et quand on relit, par exemple, le psaume 55, et je reprends le texte, « Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin, j'irais séjourner au désert. » Pour nous montrer que, pour ceux qui mettent leur espoir et leur confiance en Dieu, le Seigneur est capable de tout. Il est capable de retourner toutes sortes de situations et nos fuites, nos frayeurs, tout ce que l'on peut appeler épouvante, eh bien, le Seigneur en a la maîtrise. Vous savez, c'est que dans la peur, il nous est dit que la peur est mauvaise conseillère. Et dans la peur, nous pouvons faire de grosses bêtises. Nous pouvons perdre tous nos moyens. C'est ce qu'on appelle la panique. Et dans la panique, on le sait très bien, c'est quelque chose qui peut devenir une véritable catastrophe. Il y a nombre d'exemples d'hommes qui ont eu peur et qui ont pris la fuite. Et dans leur fuite, eh bien, ça a été véritablement quelque chose de catastrophique pour eux. Donc, pour nous montrer tout cela, c'est que Dieu est un refuge et il est la délivrance de ceux qui espèrent en lui. Et sans aucun doute, David a dû certainement prier, crier, quand il a vu eh bien, son ennemi s'approcher et qu'il allait être vaincu et être tout simplement détruit. Eh bien, Dieu a entendu sa prière, le cri. Vous savez, dans ces fameux exemples dont je parlais tout à l'heure, vous vous souvenez de Jacob qui fuyait la vengeance de son frère Ésaü. Remarquez, je vous dirais que Jacob avait fait tout ce qu'il fallait pour que son frère veuille le tuer. Il lui avait volé son droit d'aînesse, enfin, il y avait là tout un subterfuge de mensonges et toutes sortes de ruses qu'à un moment donné, eh bien, Jacob n'a pas pu rester dans la maison de paternelle. Il a dû fuir. Et vous savez, cette fuite, elle a duré 21 ans. Ce n'est pas une petite fuite. Et il s'est retrouvé là dans un pays étranger. Et nous savons que, néanmoins, derrière tout cela, eh bien, Dieu a fait quand même, il a fait quand même de Jacob un homme de Dieu. Et puis nous avons Moïse qui fuit dans le désert de Madian, désert du Sinaï, parce qu'il vient de tuer un homme. On l'a dit tout à l'heure, quelquefois, eh bien, la fuite, c'est aussi une culpabilité. Et puis un danger immédiat de la vengeance, ou tout simplement du châtiment, des fautes que nous avons commises. Moïse est devenu aussi un grand homme, certainement, dans ce que nous le connaissons dans l'histoire biblique. Et puis il y avait une femme aussi qui s'appelait Agar, dans un autre temps, qui a fui les souffrances infligées par sa maîtresse qui s'appelait Sarah. Elle aussi a été sous une bénédiction particulière. Et il y a naturellement, je pourrais en passer, c'est simplement pour donner un petit cliché de ce que peut produire les fuites, ou les évasions des hommes qui ont peur, et pour d'autres raisons. Jephté, qui va fuir l'humiliation de ses frères, parce que, quelque part, eh bien, il est né d'une prostituée. Vous vous rendez compte, quelle humiliation. Et dans tous ces cas, eh bien, Dieu les a tous secours, ces gens qui sont en fuite. Il y a également Élie qui va fuir, parce qu'il a peur d'une femme. Ah oui, Élie, le fort, le vaillant, l'homme de Dieu, l'homme de l'esprit, eh bien, il va fuir. Et lui aussi il trouvera encore une autre raison de vivre après avoir surmonté eh bien, tous ces tourments et ces tempêtes dans son âme. Et Dieu a béni tous ces hommes. S'enfuir pour échapper ou sortir du plan de Dieu, c'est une autre considération. Parce qu'il y a ceux qui ne sont pas rentrés dans le plan de Dieu, qui ont peur de Dieu et qui fuient. Mais il y a ceux qui sont rentrés dans le plan de Dieu, qui connaissent le plan de Dieu et qui veulent en sortir. Vous avez un cas fameux, c'est Jonas. Parce que Jonas, c'est un homme qui est rempli de préjugés. C'est un homme qui croit en Dieu. Dieu lui donne une mission d'aller évangéliser eh bien, telle contrée, connue à l'époque, et il va faire exactement le contraire. Mais Dieu le suit dans sa fuite, et il va l'amener là où Dieu veut. Et nous avons également un autre cas, c'est tout simplement là, dans l'histoire que j'ai citée tout à l'heure, c'est Élie, le désespéré, et qui se cache dans une grotte, qui se met dans le noir, et qui, là, à dire, tout simplement, va porter ses complaintes devant Dieu en disant « Mais je suis resté moi seul, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Voilà, et Dieu va lui révéler à un moment donné qu'il n'est pas tout seul. Et il fuit Élie. Vous vous rendez compte des hommes comme ça, qui fuient, qui ont peur? Bon, vous avez Pierre également, au moment où Jésus a été livré, ben, c'est la fuite aussi. Puis il y en a d'autres comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines dans la Bible. Et pour nous montrer que ce dont nous parlons ce soir, c'est véritablement des attitudes et des comportements humains devant des situations qui peuvent être les nôtres d'une façon ou d'une autre. Qui, quelque part, et peut-être moi le premier, n'ai pas eu envie de tout abandonner à un moment ou à un autre. Parce que ça me semblait difficile, parce que ça me semblait insurmontable, parce que quelquefois les vagues sont tellement hautes qu'elles nous effraient, et de dire, eh bien, je baisse mes bras, et voilà. Mais vous savez, Dieu est un Dieu de grâce, il sait très bien de quelle argile et de quelle poussière nous sommes faits. C'est bien pour ça qu'il vient à notre secours. Et si je dis ça ce soir, parce que j'ai à cœur de le dire, eh bien, c'est que les uns et les autres, peut-être, quelquefois, nous passons par des phases de découragement. Nous sommes un peu comme David, comme Élie, comme Moïse, comme Jephté, pour différentes raisons. Et on se dit, mais pourquoi continuer? Pourquoi aller plus loin? Et quelquefois, ça ne va pas jusqu'au bout, mais ça va peut-être avec une pensée. Je l'ai entendu encore cette semaine en disant, mais quelquefois j'ai envie de mourir. Voilà. J'irai dans le désert. J'aimerais avoir les ailes de la colombe pour qu'on me laisse tranquille, pour que je n'ai plus de problème. Je suis tourmenté d'une manière ou d'une autre, parce que je souffre physiquement, parce que je souffre moralement, psychologiquement, je souffre même aussi spirituellement. Alors, j'aimerais bien m'envoler, j'aimerais bien partir très loin, je m'échapperai en toute hâte, nous dit le psaume, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Eh oui, qui n'a pas eu ces pensées au fond de son cœur? Alors, d'où viennent-elles ces pensées? Qui suggère ces pensées? Quelle est la motivation qui nous amène à ces pensées? C'est parce que nous sommes des hommes que Dieu nous a laissé la Bible. C'est parce que nous sommes des hommes qu'il nous a fait des promesses dans l'Évangile. Et c'est parce que nous sommes des hommes qu'il a fait venir Jésus sur la terre, Dieu, s'incarnant dans la personne de Jésus pour bien nous comprendre que lorsque nous avons ces tentations, eh bien, quelque part, il y a une solution, une réponse à tout cela, naturellement. Alors, sortir du plan de Dieu, parce que pour nous dire tout simplement qu'un homme en fuite est un homme qui n'est plus maître de ses choix et de ses décisions. La fuite nous amène à prendre ce qui vient, vous comprenez, à nous réfugier dans toutes sortes de refuges ou d'abris qui n'ont pas lieu et qui ne sont d'aucun secours. C'est du sauf qui peut, hein, naturellement. Et combien nous sommes fragiles quand on nous... Quelquefois, on peut juger les autres. Quelquefois, on se dit, si j'étais dans cette situation, je ferais ci, je ferais ça. Et que lorsque nous nous retrouvons dans cette situation, eh bien, on ne fait pas ce que nous avons pensé, et on ne donne pas de leçons non plus aux autres. Parce qu'on s'aperçoit que c'est... Tout dépend du temps et des circonstances, et de l'attitude du moment qui est la nôtre. En raison de ce que nous vivons, en raison de ce que nous voyons, en raison de ce que nous entendons, de tout l'environnement dans lequel nous sommes enfermés. Alors c'est difficile tout cela, mais nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls et nous avons besoin de nous rassurer. L'homme qui fuit, c'est un homme en déroute, c'est un homme en errance. Ça me fait penser à Cain, qui après avoir tué Abel, fuyait. Ah oui, il fuyait parce que il savait très bien que là, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Dieu lui parle. Il lui dit, mais le sang de ton frère est monté de la terre. Et à un moment donné, il dit, je serai errant donc, et je serai vagabond toute ma vie sur la terre. Alors Dieu va lui parler. Il va le réconforter, même un Cain. Dieu réconforte Cain, vous rendez compte? Eh oui. Alors, tout cela, c'est une réflexion qui nous montre ce que nous avons besoin. Ce que nous avons besoin et ce que Dieu est capable de nous donner pour répondre à notre besoin. Pourtant, une chose dont nous devons savoir, et c'est véritablement eh bien, le fondement de notre réflexion, il est impossible, je dis bien, il est impossible de fuir Dieu. Ça, on peut fuir beaucoup de choses. Les hommes peuvent nous faire peur, les situations peuvent nous effrayer, des renversements ou des revers de fortune peuvent nous atteindre, il y a une chose. Et c'est peut-être là, justement, nous avons besoin de prendre toute la conscience de cette toute science de Dieu, de cette omniprésence de Dieu, parce qu'il est présent partout, et de sa toute-puissance pour nous délivrer. Et cela est dit dans un beau psaume, on y revient parce que nous le connaissons. Écoutez ce qu'il nous est dit à un moment donné. Impossible de fuir Dieu. Et si nous le fuyons, parce que nous pensons qu'il est derrière, il est déjà devant nous, il nous a rattrapés, et il nous attend pour nous ouvrir les bras, et nous montrer un peu toute la folie, finalement, de nos fuites. De ne pas, finalement, eh bien, lui faire confiance. Écoutez, où irai-je, dit le psalmiste, c'est David encore, où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face, si je monte aux cieux, si je m'enfuis vers le ciel, mais tu es déjà là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Ça me fait penser, vous savez, à ce que nous avons dit par rapport à ceux qui veulent mettre un terme à leur vie. En haut, c'est Dieu. En bas, c'est encore Dieu. Parce que Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Et même là où les morts se trouvent, eh bien Dieu également est au-dessus de tout cela. Si je prends les ailes de l'aurore, c'est exactement la même image que nous avons citée tout à l'heure. Mais si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer... Mais tu es encore là, Seigneur. Et vous savez, dans nos craintes, dans nos fuites, dans nos évasions, dans tout ce que nous avons besoin, dans tout ce que nous savons et que nous vivons, il y a une chose dont nous avons besoin de savoir, c'est que Dieu est partout. Ouais. Ne suis-je pas celui qui remplit le ciel et la terre? Alors, si je le fuis, comme Jonas, ou si je tremble, comme Élie, et que je fuis en me mettant dans le noir et dans une caverne, parce que c'était son cas, eh bien Dieu se trouve là et lui parle. Alors, quelle solution? La conclusion, elle sera très simple. La conclusion, c'est tout simplement, elle s'adresse à tous ceux et à toutes celles qui ont des envies compulsives de tout abandonner. Ouais, peut-être ça vous est venu à l'idée. Hein. On est fatigué de lutter. On est découragé, on est démoralisé. La méchanceté, là. La méchanceté et l'injustice des hommes. Les efforts que nous faisons et qui sont vains. À travers l'épuisement et les fatigues. Mais Jésus l'avait bien compris, parce que c'est aussi pour ces gens-là qui sont en fuite permanente sur tous les chemins de la terre, dans tous les autres parts ou tous les ailleurs, que ce soit en esprit, que ce soit physiquement. C'est pour eux que Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, parce que je suis un havre de paix, parce que c'est en moi et en moi seul que nous trouverons finalement le réconfort et la paix. » Alors tous ceux qui ont peur et qui se sentent incapables d'accomplir ce que Dieu leur demande. Et vous savez, pour le commun des hommes, il y a une chose que Dieu demande à tous les hommes, parce que ce sont ses créatures, c'est de vivre. Et quelquefois, on n'a pas envie de vivre. Moi, je ne sais pas pourquoi je dis ça, peut-être que quelqu'un parmi nous, et peut-être ceux qui entendront ce message ultérieurement, eh bien, traversent des moments où ils sont perplexes, où ils sont profondément malheureux, en disant, mais à quoi ça sert? Ma foi, à quoi sert-elle? Je connais les promesses, je connais la parole, je prie, je demande à Dieu de ceci et cela. Eh bien, écoutez, il nous demande de vivre, parce que c'est en vivant et en nous confiant en lui pour avoir la force de vivre qu'il nous montrera de nouveaux horizons. Et ça ne sera pas des illusions, ça ne sera pas du rêve, ça ne sera pas une aventure illusoire, ça sera vraiment quelque chose, eh bien, qui va nous faire rentrer dans une nouvelle dimension. Pas la fuite, mais de faire confiance à Dieu. La fuite, c'est toujours tourner le dos. Et le danger, il est vite à nous rattraper. Et vaut mieux lui faire face, parce qu'au moins le voit. Mais Dieu nous donnera ce qui est nécessaire. Et c'est vrai que cette parole que nous partageons ce soir, eh bien, c'est pour tous ceux qui se sentent incapables. Incapables de surmonter, incapables de pouvoir s'extraire de prisons qui ne sont pas toujours imaginaires, mais qui sont quand même eh bien, là, à l'intérieur de nous-mêmes, et de dire, eh bien voilà, je ne peux pas. Ben, l'apôtre Paul a répondu à la question. Hein. Il dira tout simplement, si nous sommes incapables de quoi que ce soit, en tous les cas, Dieu nous donne la force. Ouais. Il nous donne la capacité. Notre capacité ne vient pas de nous, mais notre capacité vient de Dieu. Et peut-être c'est ce que nous ressentons, nous en tant que chrétiens, parce que nous avons du mal à prier, nous avons du mal à louer le Seigneur, à l'adorer, parce que nous avons du mal à rendre témoignage, parce que nous avons du mal à parler autour de nous de ce bonheur que Dieu nous a donné. C'est peut-être la difficulté qu'éprouve un pasteur pour prêcher. Eh oui, pourquoi pas. Et de dire, eh bien maintenant, je préfère laisser ça à d'autres. Comme Moïse pouvait dire, quand Dieu l'a appelé, tu iras vers Pharaon, et tu diras à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il m'adore. Et Moïse se sentait vraiment incapable, en disant, mais je ne sais pas parler, alors envoie un autre, mais ne m'envoie pas, et pourtant c'est lui que Dieu a envoyé. Et c'est là où nous touchons, eh bien, toute notre petitesse et notre faiblesse, nos moyens de défense puérils, ou nous disant, mais Seigneur, je ne peux pas. Mais vous savez, si Dieu nous appelle, il nous donnera les moyens de répondre à son appel. Et si vous êtes peut-être dans un état de découragement, ou vous êtes démoralisé, eh bien c'est lui qui nous rend capables. Il nous rend capables d'être. Il nous rend capables de vivre simplement ce à quoi Dieu nous appelle. Alors il faut savoir où nous allons. Mais une chose que nous avons besoin de savoir, c'est que nous devons aller devant et pas fuir dans tous les sens. Parce que à ce moment-là, eh bien, nous neutralisons l'action de Dieu et ce que Dieu veut faire avec nous. Et quand on voit tous ces hommes qui ont fui et que Dieu a rattrapé au passage et que, après les avoir rassurés, après les avoir réconfortés, quitte à donner des prodiges et des miracles, hein, c'était le cas de Moïse, hein, bah, il est devenu quand même le conducteur du peuple d'Israël qui l'a fait sortir d'Égypte. Et qui était le législateur dont nous parlons encore, finalement, de cette loi qui subsiste encore parmi nous. Hein. David, c'était la même chose. La fuite a un contraire et a son antidote. La fuite, c'est partir, c'est s'évader, c'est tourner le dos. L'antidote de la fuite, c'est quoi? C'est se rapprocher. Et je termine tout simplement par deux textes qui nous montrent que nous avons immensément besoin. Si nous fuyons, eh bien fuyons en nous réfugiant dans les bras de Dieu. Et en lui faisant confiance, dans Éphésiens chapitre 3 et au verset 12, il est dit cette parole, en Jésus, nous avons, par la foi en lui, oui, par la foi en Jésus, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Alors je ne fuis plus, j'avance. Je vais vers lui. Par ma foi que je peux mettre en Jésus, alors à ce moment-là, j'ai la liberté. Une liberté dont la fuite, eh bien, me prive de nous approcher de Dieu. Et puis un dernier texte, simplement. Dans le livre des Hébreux, nous avons aussi cette autre parole, au chapitre 7 et au verset 25. Il est dit tout simplement, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement, que Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, en son nom, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Alors, si nous voulons résumer, je reprendrai tout simplement cette parole que nous avons lue au départ. David dit, « Oh, si j'avais les ailes de la colombe. » Ça, c'est ce qu'il pouvait s'imaginer. En pensant que s'il était comme une colombe, eh bien, il partirait là où il veut et puis il serait tranquille, il aurait la paix. Mais la colombe, elle va vers le ciel. Et c'est quand même l'emblème, en quelque sorte, de la paix et du repos, la colombe, en tous les cas, de la paix. Elle monte vers le ciel. Alors, je m'envolerai, je trouverai le repos. Voici, je fuirai bien loin. J'irai séjourner au désert. Et même au désert, le Seigneur s'y trouve. Alors que Dieu nous bénisse ce soir. Qu'il nous donne sa grâce. En tous les cas, je reviens et je ponctue, je souligne cette parole. C'est pour tous ceux qui peut-être ont des velléités ou des inspirations à tout abandonner, à tout laisser derrière eux et à se décourager. Alors le Seigneur est là pour nous réconforter. Et quand on voit comment David a été miraculeusement secouru, alors ce qu'il a fait pour David, il peut le faire aussi pour nous. Alors courage et que Dieu nous bénisse. Nous allons prier quelques instants maintenant. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Nous croyons qu'en effet, Seigneur, nous sommes, nous en tant que chrétiens, sur le rocher, Seigneur, de l'évasion. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous fais évader. S'il y en a qu'un qui peut nous faire évader, qui nous ouvre les portes de nos prisons, de nos craintes, de nos peurs, de nos culpabilités, de toutes ces appréhensions que nous pouvons avoir et que nous avons du mal à supporter parce que cela, en effet, Seigneur, non seulement contrarie la vie, mais empoisonne notre existence. Nous voulons te demander, Seigneur, que nous puissions comprendre que si tu nous donnes des ailes, donne-nous les ailes de la foi. Donne-nous celles qui nous portent à te faire confiance, parce que tu es, en effet, Père éternel, fidèle pour nous délivrer. Tu es fidèle, Seigneur, pour, en effet, Seigneur, nous apporter le réconfort dont nous avons besoin, les encouragements, l'exhortation, Seigneur, nécessaire dans nos moments de difficulté. Au moment, Seigneur, où la peur prenant le dessus, eh bien nous tournons de dos à la réalité. Et la réalité, Seigneur, c'est toi qui es réel. Et nous voulons mettre notre confiance en toi, parce qu'il n'y a qu'un seul sauveur, il n'y a qu'un seul souverain, il n'y a qu'un seul Dieu et roi puissant. Eh bien, c'est toi, Jésus, et tu as raison de nous rappeler que tu es le chemin. Ce chemin, Seigneur, ce n'est pas celui de la fuite éperdue. Tu es la vérité, tu nous dis la vérité, ce que tu dis. Tu ne manques pas de l'accomplir dans nos vies. Tu es également la vie, la vraie vie. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour ta grâce, pour ta parole, pour ton esprit maintenant qui est inscrit dans les cœurs. En effet, cette espérance vivante que tu nous donnes, en effet, Seigneur, de nous tourner vers toi. Et ainsi, Seigneur, de nous reposer en toi et y trouver la paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen.